phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 8 avril 2015. Il est 19h passé de 6 minutes. Désolé du retard et c'est l'heure du Canu Info.
Et aujourd'hui, on va parler de la loi Macron et des manifs qui vont y faire suite.
Puis de la grève des flics, des CRS et des contrôleurs aériens.
Un projet de loi contre le djihadisme proposé par le Sénat.
Et puis vous l'aurez peut-être remarqué, mais si vous n'êtes pas complètement fidèle à Radio Canu, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une grève à Radio France depuis maintenant 21 jours. Cette grève continue, a été revotée ce matin, et donc on aura quelqu'un qui viendra nous parler de cette grève.
Ensuite, on parlera de la déclassification des archives de l'Élysée concernant le génocide rwandais.
Et puis il y aura un appel à la marche de nuit non mixte de vendredi soir.
Pour finir avec la rubrique « Il faut que ça se sache », rubrique sur les migrations et les luttes sans papier.
Alors, demain matin, 10h30, Jean Massé, c'est le rendez-vous pour la manifestation contre la loi Macron. Cette loi Macron, alors cette loi Macron, on a déjà parlé, reparlé, reparlé sur cette radio. On va quand même faire une petite révision avant la manif. Et donc, pour cette révision, on est allé piller le site qui s'appelle « Tant qu'il y aura de l'argent ». Ce site qui nous a fait un top 5 des pires mesures anti-prolo de la loi Macron. Alors le site prévient en chapeau de l'article et prévient que si l'on suit les médias, on pourrait croire que cette réforme ne concerne que les professions réglementées. Alors autant te prévenir tout de suite, camarades notaires ou huissiers, si tu espères lire ici une brève sur tes malheurs, tu peux t'arrêter tout de suite. Ce site ne s'intéresse pas à toi. Donc on attaque avec le top 5 des mesures et on commence par la numéro 5, puisqu'il s'agit d'un top, donc on va remonter petit à petit. La numéro 5 est la mise au pas des prud'hommes. Le président de la cour d'appel, suite à cette loi, désignera les conseillers prud'homaux sous proposition des syndicats. Il pourra sanctionner un conseiller s'il ne l'estime pas assez impartial, c'est-à-dire en gros, potentiellement, si le conseiller est trop du côté de l'employé. Ce conseiller sera tenu d'adopter un comportement visant à écarter tout doute légitime à l'égard de son impartialité. Il lui est aussi interdit d'avoir une activité de militant syndical. Alors que jusqu'à maintenant, il me semble que dans les conseillers prud'homaux, c'est quand même pas mal des militants syndicaux. Je peux me tromper là-dessus. En cas de problème de fonctionnement, entre guillemets, un juge professionnel avec le président et le vice-président du conseil des prud'hommes remplaceront le conseil. Comme ça, au moins, il n'y a plus de représentants du personnel. Augmentation. Alors ensuite, le numéro 4 du top, l'augmentation du travail du dimanche. Ministres, préfets et maires pourront accorder des dérogations au repos du dimanche dans les zones internationales, touristiques, commerciales et dans les gares, ou simplement s'il y a préjudice au public ou au fonctionnement normal de l'établissement, c'est-à-dire en gros qu'ils pourront les accorder dès qu'ils en ont envie. Les petites entreprises n'auront pas à payer des augmentations de salaire pour les gens qui bosseront le dimanche, à condition de signer un accord avec les syndicats. donc les petites entreprises, c'est pas forcément là où il y a des syndicats les plus organisés, ou d'organiser un référendum à l'intérieur de leur salarié, un référendum pour leurs salariés, dont on se doute un peu de l'issue, une fois que les gens ils devront dire à leur patron, non, en fait, moi, j'ai pas envie de bosser le dimanche. Les salariés volontaires, qui, donc volontaires est bien mis entre guillemets par le site, hein, qui subiront le plus cette loi seront surtout les femmes, plus touchées par les contrats précaires et les temps partiels, donc moins en mesure de refuser quoi que ce soit.
Et oui.
Le top numéro 3, quasi-légalisation des délits patronaux. Les sanctions pénales, donc pour les patrons qui attendent au droit du travail, les sanctions pénales seront remplacées par des amendes, donc amendes à l'entreprise plutôt. L'employeur qui a commis un délit n'aura plus nécessairement à s'exprimer publiquement devant un juge, mais à négocier le montant, voire l'existence de l'amende. Pardon. Avec les DIRCCTE, c'est-à-dire Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, qui ne sont pas vraiment indépendants du patronat.
Et ils vont régler ça entre eux, quoi.
C'est ça. Ils vont dire « Ah, bah maintenant tu mérites une amende ». Le patron va dire « Oh bah quand même ». L'autre va dire « Si, si, je t'assure ». Bon, allez, 1 € symbolique. Par exemple, un patron pourra choisir de payer une amende plutôt que de risquer un conflit social en informant normalement le comité d'entreprise d'un plan de licenciement. Les vérifications que le CE ait été au préalable informé sont d'ailleurs supprimées. En gros, cela revient à légaliser les délits patronaux. Le patron n'aura qu'à acheter le droit de commettre n'importe lequel de ces délits. Alors pour le détail, il faut voir l'article 85 de la loi Macron. Bon, il y a les pages sur le document PDF, mais voilà, quand même. On en arrive au top numéro 2, qui est le développement du travail gratuit des handicapés. Les patrons pourront faire appel à des travailleurs handicapés venant faire une mise en situation en milieu professionnel, c'est comme ça que ça s'appellera. Ils ne seront pas payés et aucune obligation d'embauche ne suivra. Ceci remplacera l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. Donc jusqu'à maintenant, théoriquement, il y a un pourcentage, je ne me rappelle plus, peut-être c'est 3% dans les grandes entreprises des salariés qui doivent être des travailleurs handicapés. Donc là, on laissera tomber et ça sera plutôt le patron pour embaucher autant qu'il voudra de handicapés gratos. Autrement dit, l'obligation de salarier des personnes handicapées comme n'importe quel autre travailleur sera remplacée par des stages, donc gratos, à durée déterminée, certes, spécialement prévus pour les handicapés. Là encore, on a les références dans le texte de loi. Et puis, le top numéro 1, c'est une attaque massive contre les maigres protections incluses dans le droit du travail. Donc tout accord employeur-salarié primera sur le droit du travail. En détail, il s'agit de la suppression du deuxième alinéa de l'article blablabla. Je vais pas vous faire ce détail-là. Bref, pour les capitalistes, les institutions paritaires sont un frein à la restauration du taux de profit. Il s'agit de liquider les dernières formes de représentation ouvrière dans les institutions pour mettre fin aux conventions collectives et autres compromis. Pour nous, cela signifie la précarisation du travail et la facilitation des licenciements. Donc, on redit demain 10h30, Jean Massé, pour protester contre la loi Macron. Si jamais vous êtes salarié d'une manière ou d'une autre, c'est aussi le moment de vous mettre en grève pour aller à la manif.
Si vous ne l'êtes pas, c'est pas une raison pour pas se lever.
Ouais.
Et maintenant, on va parler beaucoup de grève. Alors, je vais commencer par la grève chez les flics municipaux. Donc, leur gilet pare-balles ne garantit pas assez leur sécurité. Ils veulent aussi être armés. Comprenez, ils flippent depuis Charlie le sentiment d'insécurité chez ces policiers municipaux de Lyon est à son comble. Ils veulent eux aussi pouvoir tirer et tuer impunément. Ils ont entamé un mouvement de grève le 23 mars 2015. Donc Thierry Vernoux, vice-président du syndicat CFTC Police Municipale, a déclaré « plus d'armes et moins d'arabes ». Non, ma langue a fourché, il a déclaré « aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué d'intervenir de façon sereine sur le terrain. Le communautarisme grandit ». Donc selon le syndicat, 209...
Ta langue n'a pas fourché, elle a traduit.
Oui. Selon le syndicat, 209 demandes individuelles d'armement sur 335, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc, qui ont été adressées, transmises au maire Gérard Collomb le 29 janvier dernier. Ils ont vraiment un grand terreau de complicité entre eux là-dessus. Et ils ont été reçus ce vendredi par la direction du coup de la police municipale et de l'administration de la ville. Et ils sont ressortis bredouilles. Le maire de Lyon campe sur ses positions qu'il a réaffirmées lors du dernier conseil municipal. À défaut d'armer les policiers municipaux, il préfère un renfort des forces de police nationale. Et les responsabilités et les missions doivent être claires. La collaboration entre la police nationale et la police municipale est très satisfaisante. Instaurer l'armement reviendrait à modifier le contrat que lient les policiers municipaux à la ville et qui dit précisément dans quelles conditions ils exercent leur métier, et c'est sans être armés. La police municipale lyonnaise a avant tout une mission de proximité, de présence, en plus de la verbalisation, sans oublier qu'elle s'est dotée d'un GOM, et non pas d'un gnome, un GOM, un groupe opérationnel mobile d'une quarantaine d'hommes chargés de la sécurité de proximité. On se sent bien protégé. Hein. De plus, les agents municipaux ne travaillent pas de nuit. Du coup, ils n'ont aucune raison d'avoir des armes puisqu'ils sont là que deux jours. Voilà, du coup, tout ça s'était rappelé par la ville de Lyon, précisant que l'équipement des policiers municipaux a été renforcé il y a quelques temps. Nouveau gilet pare-balles, matraque télescopique, d'ailleurs flashbomb même à des endroits. Donc ils sont pas en manque d'armes finalement.
On voit bien tous les jours. Très 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 exceptionnellement, on pourrait dire sur cette antenne, tiens bon Gérard quoi.
Quand même parce que il félicite le lien entre la police municipale et nationale du coup. Et sinon, sans transition,
ça sera répété, en tout cas,
grève chez les CRS. Ils sont épuisés par le plan Vigipirate. Donc ils n'ont pas le droit de grève, mais ils peuvent se faire porter malade. Et les effectifs des compagnies de Toulouse, Lyon, Nancy et même Charleville-Mézières se sont mis en arrêt maladie. Espèce de fainéant, ils devraient protéger le pays plutôt que se plaindre et de jouer les chiffres molles. Petite bite, oui. Ça, c'est une déclaration de Mémé Ginette, prise non loin de la garnison de la région lyonnaise. Ils se disent épuisés par les effets du plan Vigipirate, donc qui leur impose de longues gardes statiques devant des lieux menacés sur tout le territoire, donc bâtiments publics, synagogues, représentations diplomatiques, entreprises de presse, etc. Mais nous pourrions leur demander, mais pourquoi avez-vous choisi ce métier ? C'est une vraie question. En tout cas, moi, chaque fois que je les ai vus, avant janvier d'ailleurs, ils faisaient effectivement le pied de grue en attendant que des manifs se déroulent. Alors j'ai toujours cru qu'ils faisaient partir du décor pour bien rappeler que la démocratie, c'est aussi ces gros bras en bleu qui poirotent dans des fourgons. Alors j'ai du mal à comprendre là, pourquoi ils se plaignent maintenant, quoi. Donc les syndicats continuent à râler. Je cite, le plan Vigipirate renforcé est venu s'ajouter à une année 2014 déjà très dense en missions de tout type, notamment après les opérations de maintien de l'ordre au barrage de Sivens. Mais Méginette commente, ils tuent un jeune gars et ils s'attendent après que tout le monde les remercie. Normal qu'ils soient fatigués de leurs conneries. Si j'avais encore toutes mes jambes, je leur mettrais bien quelques coups de parapluie sur le dos à ces assassins. Voilà, Mémé Ginette est très en colère. Et plus de 10 000 militaires ont été déployés par Manuel Valls en renfort des classiques unités des forces de l'ordre. Mais le patron d'Alliance estime que ça ne suffit pas. C'est quand même énorme, 10 000 militaires là, qui se baladent. On les a bien vus, tout le monde les voit bien. Et la place Beauvau contre Car, donc le patron d'Alliance, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont débloqué des effectifs supplémentaires et abondé de plusieurs centaines de millions d'euros les budgets de la police et de la gendarmerie après les attentats. Le renseignement sera aussi musclé dans des propositions jamais égalées. On a bien vu, on avait parlé du projet de loi là ultra... où ils débloquent tout ce qu'ils peuvent, ils offrent tout. Et voilà, mais ça ne suffit pas aux flics, parce que pour les flics, le malaise et plus globale. En cause notamment aussi pour eux, la réforme de la garde à vue. Donc selon eux, les conditions de travail et l'environnement juridique se dégradent. Pour eux, hein, pas pour les garder à vue, puisque pour rappel, cette réforme permet aux personnes en garde à vue de disposer d'un avocat tout le long de l'interrogatoire. Mais ça, vous comprenez, ils sont épuisés. Que ce soit les flics, les CRS, ils en peuvent plus. Donc pour conclure, des frilics à cran qui luttent pour moins de travail, moins d'attentats et plus d'armes, en quelque sorte l'impunité.
Et alors, c'est le moment de revenir un instant sur le point précédent. On a donc compris maintenant qu'une large proportion des CRS lyonnais sont en arrêt maladie. Demain, 10h30, rendez-vous à Jean Massé pour la manifestation.
Et le Sénat qui propose des idées pour combattre les filières djihadistes. La commission d'enquête du Sénat sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, a présenté ce matin 110 propositions dans un rapport de 440 pages que, bien sûr, je n'ai pas lu en entier, j'ai trouvé un résumé. Du coup, en voici quelques-unes que j'ai regroupées un petit peu par ce que je voyais comme thématique. Alors déjà, un peu dans la première ligne, il y a le fait de rendre obligatoire une formation à la prévention de la radicalisation. Le rapport du coup propose de mettre en place des actions obligatoires de formation à la détection de cette radicalisation, mais pour qui ? Pour les enseignants, la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, l'aide sociale à l'enfance, les éducateurs sportifs, les magistrats, les assistants sociaux, les personnels pénitentiaires et les personnels de la santé mentale. Et oui, voilà, c'est mignon hein, de transformer clairement tout le monde en flic. Et bien sûr, il n'y a aucune forme de financement qui est proposée pour tout ça en plus. Hein. Le deuxième petit axe, c'est de bien miser sur tout ce qui est les balances et les poucaves. Alors ça, c'est un peu l'axe majeur du Sénat. Le rapport préconise de renforcer le CNAPR, c'est le Centre National d'Assistance et de Prévention de la Radicalisation, en le dotant maintenant de moyens, pour peut-être qu'il existe plus. Puisqu'il existait déjà. Ce dispositif, muni d'une ligne téléphonique notamment, permet de signaler les individus radicalisés. Il devrait fonctionner 24 heures sur 24 et lister les signes de radicalisation. Le rapport propose aussi d'utiliser d'anciens djihadistes, repentis, entre guillemets, pour organiser la contre-propagande. Cette solution a été expérimentée par les pays anglo-saxons, apprend-on. Du coup, on imagine surtout les États-Unis. Enfin, bref. Évidemment, il faut s'assurer.
L'Angleterre, il y a un dispositif.
L'Angleterre, comme ça, l'Angleterre. Ah ouais, ok. J'ai perdu ma page. Oui, du coup, après, bon, voilà, comment on s'assure qu'ils sont repentis ? Ben, là, il n'y a pas trop de réponses, mais bon. Ils ont, dans l'ensemble, des propositions sans trop de réponses, qui ont l'air cool, comme ça. Mon voisin du dessous, il aurait pu faire les mêmes, à peu près, en gros. Du coup, dans la première partie du rapport, ça énonce aussi un constat implacable. Il n'y a, par exemple, à la prison de Fleury-Mérogis, qui est quand même la plus grande d'Europe, hein, un seul fonctionnaire, vous entendez bien, issu du bureau de renseignement de l'administration pénitentiaire. Les sénateurs proposent de tripler le nombre de personnels dédiés au renseignement dans les tôles pour parvenir à un nombre de 100 sur le territoire. Là encore, pas de financement, tout ça, blablabla. Peut-être qu'ils osent pas trop s'avancer puisqu'on est quand même un peu en période d'austérité, du coup, bon. L'autre axe par rapport à tout ce qui est balance, c'est que les autorités doivent être présentes sur Internet. Bien entendu, le rapporteur du texte propose que les acteurs d'Internet permettent aux internautes de signaler des messages contraires à la loi en un seul clic. Ça permettrait aux internautes effrayés de dénoncer très rapidement un contenu qu'ils jugent illicite. Mais pas de précision, là, sur les informations collectées et sur leur traitement. Le troisième gros axe de ce texte du Sénat, c'est les flics, bien sûr, puisque du coup, il parle de renforcer les prérogatives des services antiterroristes. C'est a priori, ce que j'en ai compris, la partie qui est un peu la plus obscure du rapport, ce qui est très étonnant. Les sénateurs proposent de créer, du coup, ce qu'ils appellent des task forces. J'imagine du coup des forces concentrées sur la tâche, c'est ce que j'en ai compris mais c'est un peu flou, la tâche djihad donc, et qui permettrait aux services de sécurité de mettre leurs moyens en commun et de partager leurs informations. puisque aujourd'hui encore, l'échange d'informations entre les services du renseignement reste à leurs yeux un problème majeur. Et oui, tu m'étonnes, ils font que se tirer dans les pattes, et c'est tant mieux pour nous, parce que sinon, ça serait encore pire. Rappelons à cette occasion que, comme toutes les lois sur le terrorisme, ces extensions risquent de devenir incontrôlables, de s'étendre à ce qui les arrange bien, de l'utiliser pour contrôler toute forme d'opposition non électoraliste, et finir par arrêter, pour terrorisme, par exemple, deux militants qui ont mis des clous par terre et fait éclater des feux d'artifice devant un centre de rétention. Voilà, du coup, concluons donc que cet insupportable et citoyenniste consensus nommé « Je suis Charlie » il y a quelques temps est en train, comme on s'y attendait, de faire ses petits. Valls a déjà passé sa loi liberticide et ses coupes budgétaires. Rapido, voici la suite. Des propositions toutes fraîches à étudier par le gouvernement et le Parlement pour nous pondre une nouvelle loi fourre-tout, cache-cache, qui dit un truc et qui en permet beaucoup, beaucoup d'autres à nos dépens.
Radio France, maintenant, la grève a été revotée ce matin. On rentre dans la quatrième semaine de grève. Et on a ici même dans ce studio un agent double qui bosse à la fois pour Radio Canut et pour France Culture. Et qui va nous raconter un peu ce qui se passe à la maison de la radio. Alors, vas-y, qu'est-ce qui se passe à la maison de la radio ?
Bonjour. Bonjour. Il y a un gros mouvement social, c'est assez large comme question, mais en tout cas oui, il y a un mouvement de grève assez dur, 4 semaines, sur des revendications assez simples qui sont un refus d'un plan social qui s'annonce, enfin qui a été longtemps avant d'être pleinement assumé et qui a été finalement assumé officiellement par le PDG Mathieu Gallet cette fin de dernière semaine.
Alors, en fait, pardon, j'aurais mieux fait de te présenter un petit peu mieux et de te poser la question de ton implication dans la maison de la radio, de la Radio France, et qu'on sache un peu ce que tu racontes, qu'est-ce que t'as foutu ces dernières semaines. Et...
Alors, moi, je fais des documentaires sur France Culture, dans une émission de France Culture. Je suis ce qu'on appelle un producteur délégué dans le vocabulaire maison, un producteur tournant. Je suis intermittent de la radio. Et donc j'y étais au tout début du conflit social pour monter un documentaire que du coup je n'ai pas monté, mais du coup ça m'a permis de participer à la grève en soutien aux gens qui se déclaraient vraiment grévistes. Moi j'avais pas d'heure déclarée ces jours-là, donc je suis pas vraiment gréviste.
Okay.
Mais en soutien, comme beaucoup de gens s'en ont manqué en fait à la maison de la radio.
Et tu as, dans les 3 dernières semaines, t'as passé pas mal de temps par là-bas.
J'ai passé, ouais, une semaine, la 2e semaine du conflit, je crois, à toutes les AG, les manifs, etc.
Ok, quelles sont les nouvelles les plus fraîches? C'est-à-dire qu'il y avait une échéance aujourd'hui.
Alors, il y avait une échéance qui n'en était pas vraiment une, c'est-à-dire que... Donc on a compris qu'il y avait des tensions entre le PDG, Mathieu Gallet, ce qu'on appelle la tutelle, ou ce que lui appelle l'actionnaire, à savoir l'État, le ministère de la Culture. Ils font une sorte de petite guéguerre un peu politique qui est très pénible, et donc Fleur Pellerin, qui est la ministre de la Culture, emploie un vocabulaire publiquement assez... elle le convoque, elle lui dit qu'il faut qu'il rétablisse le dialogue social et qu'il définisse son projet stratégique pour la maison. Projet stratégique qu'il a pas vraiment, à part liquider en fait des gens, en fait liquider, faire des économies drastiques, et donc il a officialisé ça, il a officialisé un plan de départ de 380 personnes. Donc ça avait fuité depuis la fin de la semaine dernière, il devait l'officialiser dans une réunion du CCE, donc face aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux, aujourd'hui, pour entamer de nouvelles négociations. Donc aujourd'hui, il y avait donc cette réunion du CCE, où la délégation des personnels et des syndicats sont arrivés avec un texte qu'ils ont lu en disant qu'ils refusaient de négocier, que ce projet était toujours le même et que ça fait un mois qu'ils se battent contre et que c'est pas parce que maintenant il était officiel qu'ils allaient arrêter la grève. Et le CCE donc a duré 20 minutes, le temps que les syndicats lisent leurs lettres et s'en aillent. Suite à ça, il y a eu donc l'AG du jour qui a revoté la grève à l'unanimité moins une abstention, pour montrer que même si c'est la 4e semaine, il y a quand même une sorte de fort consensus pour que le mouvement continue. En tout cas en théorie. Et les dernières nouvelles, c'est que le CSA, donc le CSA qui est donc l'organe qui est chargé de faire et de défaire les dirigeants de l'audiovisuel public et donc de Radio France, qui a donc nommé Mathieu Gallet il y a un an, qui l'a conforté au début du mouvement, ce soir a appelé à un rétablissement du dialogue social, comme ils disent, avec la nomination d'un médiateur. Donc on s'attend à la nomination d'un médiateur demain.
Et c'est le CSA qui va
après
le nommer.
4 semaines de
ouais, c'est ça. Et après, ça fait quand même un petit moment que les syndicats disent que là, il n'y a pas de dialogue social. Enfin, il n'y avait déjà pas de dialogue social avant le mouvement. C'est pour ça qu'il s'est un peu déclenché. Et que le dialogue social n'était pas possible avec la direction d'aujourd'hui. Donc, la médiation a été réclamée depuis un petit moment.
Et du coup, c'est le CSA qui nommerait ce médiateur ou c'est Pellerin?
Alors, ça, on ne sait pas exactement. A priori, ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, la nomination d'un médiateur.
Mais alors, qu'est-ce que va pouvoir faire un médiateur qui va devoir faire la médiation entre un PDG qui tient à licencier ses 380 personnes et des syndicats qui ne veulent pas en entendre parler? C'est-à-dire que le dialogue social, dans la mesure où tout a déjà plus ou, semble plus ou moins avoir été dit, à quoi ça va nous avancer?
Mais on ne sait pas exactement, en fait.
Du vent
Ouais, c'est un peu du vent. Et tous les gens qui sont en grève et tout ça sont à la fois vivent des moments qui sont quand même super forts. Au-delà des revendications, tout ça, il y a une vraie vie collective qu'on peut connaître dans tous les mouvements sociaux, de libération de la parole, de rencontres, de trucs hyper beaux et hyper forts et aussi hyper fatigants à vivre. Donc il y a une certaine fatigue et l'impression d'être dans une impasse. Enfin, ils ont l'impression de pas être entendus en fait sur leurs revendications. Donc effectivement, si Fleur Pellerin, Mathieu Gallet décident pas de dire que non en fait c'est bon, des sous il y en a, on va en trouver et on va se dire qu'on va pas licencier des gens et qu'on va continuer à faire de la radio avec le même nombre de postes quoi.
Parce que en fait, si j'ai bien compris, il y a un déficit du coup à Radio France de 27 millions, un truc comme ça.
Je sais pas le chiffre exact, mais qui est important. Ouais.
Depuis le début, ça fait quand même du coup une super longue grève. Il y a eu aucune avancée en termes de négociation, en fait.
Il y a eu des mini avancées parce qu'en fait, si on reprend depuis le début, il manque de la thune pour qu'il y ait un budget qui termine à zéro à la fin de l'année. S'il manque de la thune, c'est parce qu'il y a un gros problème sur la maison de la radio qui est en rénovation depuis une dizaine d'années parce qu'il fallait la désamianter. Sauf que, au lieu de juste la désamianter, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils fassent un truc hyper classe et puis qu'ils ont fait ça bien et puis que du coup le devis a triplé depuis le début. Il y a aussi une mauvaise gestion pas seulement de Mathieu Gallet, mais des précédents directeurs sur des cadres dirigeants qui se sont multipliés incroyablement, sur une politique de haut salaire qui est assez incroyable. Puis il y a aussi une dérive sur la mission de Radio France qui est de faire de la radio et qui a multiplié un petit peu ses activités, notamment pour proposer des sites internet, ce qu'on appelle la direction des médias numériques, qui font plein de trucs qui sont finalement pas de la radio, mais en fait ils ont retiré des personnels qui faisaient de la radio pour faire ça, ils ont embauché des nouveaux, ça coûte cher. Par exemple, il y a la mise en place aussi de tous les systèmes vidéo pour filmer la radio. Enfin, il y a une mauvaise gestion qui fait qu'effectivement il y a la thune qui est perdue. Et j'ai oublié ta question du coup.
Les négociations.
Voilà. Donc du coup il y a eu plein de trucs qui sont passés et la grève s'est déclenchée avec 4 préavis assez précis. Un qui concerne tous les métiers ouvriers de la maison, parce qu'il faut rappeler que Radio France c'est plus que des radios, c'est une petite ville, c'est 5000 personnes qui y passent tous les jours, donc ce qui sous-entend que dedans il y a aussi les ouvriers, du ménage, de l'accueil, de la sécurité, il y a des pompiers, des serruriers, il y a des plombiers, enfin il y a tout ça. Et eux, c'est vraiment d'une part deux par ce mouvement, parce qu'on est en train d'externaliser leurs services, et ça part aussi des artisans de la radio, des techniciens et des réalisateurs qui eux vont être verticalisés. Je vous avais expliqué ça un petit peu il y a 15 jours. Donc ça, c'est deux préavis de grève, un sur les ouvriers, sur les externalisations, et un sur la verticalisation. Il y a un troisième préavis de grève sur France Bleu, les locales de Radio France, où on leur demande de faire moins d'antennes locales et qu'on va regrouper, qu'on va fermer certaines zones locales et qu'on va regrouper par région pour qu'il y ait finalement moins de programmes locaux. Et puis il y a un quatrième préavis qui concerne les orchestres, parce que Radio France, il y a deux orchestres, deux chœurs, donc avec des musiciens, où il était prévu dans le programme qu'il y ait un orchestre qui disparaisse. Donc voilà, donc sur ces préavis, l'externalisation, rien n'a été avancé à part une vague promesse de non, mais en fait il n'y a pas du tout d'externalisation alors qu'elle est déjà en marche. Il y a des sortes de mensonges. Ils ont dit que la verticalisation est un projet qui est qui allait être abandonnée. Donc ça, on peut considérer que c'est une victoire, mais dans leur proposition, ça s'accompagne de, par contre, il faut quand même réformer la manière dont on produit les programmes, donc on va quand même travailler là-dessus, et tout le monde se doute que c'est aussi pour rationaliser, etc. Sur le réseau bleu, sur France Bleu, il n'y a eu aucune avancée, et sur les orchestres, alors là, maintenant, on ne veut plus éliminer un orchestre, mais on veut les rapetisser, enfin, en tout cas, ouais, qu'il y ait moins de musiciens dedans.
Les deux plus petits, ouais.
Ouais. Donc il y a eu des petites avancées comme ça, mais en fait tous les préavis sont toutes ces revendications, il y a un chapeau commun à tous les préavis qui est la défense du service public et qui est un refus de la diminution de la masse salariale, parce que ça fait les problèmes de thunes ne datent pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que les moyens se réduisent pour faire le même travail, voire même faire plus de boulot. Donc en fait les gens en ont marre en fait de perdre des moyens pour avec la même masse de travail qu'ils ont à faire. Donc les grosses revendications, c'est pas de licenciement, en tout cas pas de départ, qui soit volontaire, contraint, ou je sais pas comment ils appellent ça, d'accompagnement au départ des seniors, et pour pouvoir avoir une sorte de moyen de faire une radio que les gens qui bossent là-bas, et moi aussi, estiment mieux que ce qui se passe dans les radios privées en tout cas.
Mais alors, pas de départ, comment est-ce que ça peut se faire concrètement? Puisque du coup, y a cette histoire d'énormes déficits, et donc voilà, on licencie du monde, on fait des économies. Si là on licencie personne, comment on fait pour que ça continue à fonctionner financièrement?
Alors déjà, il y a eu une avancée qui n'était pas de la direction, mais de Fleur Pellerin, qui a dit qu'elle allait balancer une subvention d'État pour les dettes qui sont dues aux travaux. On ne sait pas de quelle ampleur. Ensuite, il suffirait qu'il y ait un petit peu plus de thunes qui soient louées par l'État. Donc la majorité des thunes qui rentrent à Radio France, c'est issue de la redevance de l'audiovisuel, enfin, ce qu'on appelle la redevance télé. C'est 26 euros par an de cette redevance qui part à Radio France.
Par an et par personne qui paye, tu veux dire?
Par foyer, ouais. Par an et par foyer. Je ne sais plus à combien elle est la redevance, mais elle doit être à 100 et quelques. En gros, l'énorme majorité part à France Télévisions et 26 euros part pour Radio France. Et j'ai plus le chiffre exact et je l'ai pas retrouvé, mais je crois qu'il suffirait qu'il y ait 26,50 €.
Alors pourquoi ils demandent sur la feuille si on a la télé chez nous?
C'est là, si on n'a pas la télé, on, par contre, on subventionne pas la radio.
On pourrait avoir la case, est-ce que vous avez une radio et la cocher?
C'est ça. Et puis, le truc, c'est que les gens disent effectivement, c'est possible de réduire les budgets, mais pas environ des gens. C'est possible de se dire que. Que Nagui il est trop payé, c'est possible de se dire que, il y a plein de trucs, que tout ce qui sert pas à la radio, on n'est pas obligé de le faire, enfin, on n'est pas obligé de filmer France Inter et France Info 24h sur 24 pour se dire qu'on va concurrencer BFM TV. Enfin, il y a plein de dépenses qui peuvent être réduites. Enfin, et que ça marcherait pareil, même mieux. En tout cas, du coup, sur toutes ces problématiques, et ce qui se passe et ce qui est super intéressant dans ce mouvement social, c'est que, les gens sont force de proposition, c'est-à-dire qu'il y a plein de collectifs en dehors des syndicats qui sont créés, des collectifs où on retrouve des grévistes, des non-grévistes, des syndiqués, des non-syndiqués, des gens où dans un collectif comme Le Meilleur des Ondes, il peut y avoir des réalisateurs, des techniciens, des agents de ménage et tout ça, qui eux travaillent pour faire une sorte de bilan de combien coûte leur travail et qu'est-ce qu'ils feront comme proposition. Donc c'est aussi ça qui est assez cool, c'est ces collectifs qui se montent et qui travaillent, quoi. Les grévistes se passent chez eux, les AG sont pleines, c'est assez impressionnant et souvent assez émouvant.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'après la grève, il y ait une floraison d'émissions sur la grève?
Alors il y en a déjà qui se font, il y a donc dans les collectifs qui se sont créés, il y a notamment le SPARF, une association qui est la Société des producteurs associés de Radio France. Il y avait déjà des associations de producteurs par chaîne, là ils se sont regroupés un peu entre eux, ils ont fait... deux émissions, la deuxième c'était hier. Ils ont demandé à la direction d'être diffusée sur toutes les antennes. La direction a bien évidemment refusé. Donc ils font des émissions qui sont en streaming et après en téléchargement où on retrouve des voix qu'on connaît. Dans la première, c'était il y avait Philippe Meyer, il y avait Marie Richeux, enfin des voix un peu connues pour expliquer aux auditeurs un petit peu, parce que c'est le truc qui est un petit peu pénible pour les auditeurs, c'est que des fois ils s'énervent sans trop comprendre et c'est dur de faire l'information. Il y a eu Pascal Clark qui a fait une émission spéciale sur la grève. C'était une manière pour elle de casser la grève joliment. C'était marrant parce que du coup il y avait plein de messages de soutien qui arrivaient d'artistes et quand elle les annonçait on avait l'impression que c'était des messages qui arrivaient pour son soutien à elle. Enfin voilà, donc on en parle un petit peu sur les antennes, c'est aussi, enfin moi, de mon point de vue, c'est aussi une manière de casser la grève pour des producteurs qui sont en manque du micro et qui veulent le reprendre absolument et qui du coup parlent de la grève. Mais après, au-delà de ces petites critiques, il y a quand même une vraie convergence qui va, enfin, c'est dans ce sens-là où cette grève est historique, c'est-à-dire qu'elle est intermétier et elle touche même les gens qui sont stars. C'est-à-dire que même si des gens comme Patrick Cohen cassent la grève et sont en manque de micro et vont critiquer certains trucs, ils déclarent publiquement qu'ils ont aussi les mêmes inquiétudes sur une sorte de défense du service public qu'il faut absolument...
Mais alors, du coup, ce que tu dis là m'amène à demander comment ça se passe la vie à Radio France pendant la grève. Qu'est-ce qui fait qu'il y a il y a certaines émissions qui ont lieu, d'autres qui n'ont pas lieu. Il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui bossent pas. C'est très net que sur France Culture, il y a à peu près zéro émission. Sur France Inter, il y en a plus. Sur France Info, il y a a priori un peu la moitié du temps où il y a de l'émission. Comment tout ça s'organise? Est-ce que c'est des histoires de camps, d'affrontements entre des grévistes et des non-grévistes?
Alors c'est un peu tout mélangé. En fait, à la base, le mouvement, c'est les techniciens en fait qui sont les plus forts pour perturber l'antenne. Si tous les techniciens sont en grève, il n'y a pas d'antenne, même si les autres personnels sont pas grévistes. Pour en tout cas ce qu'on entend à la radio. Donc ce qui fait que au début de la grève, la direction a pu anticiper en employant des CDD. Puisque les préavis devaient être déclarés 5 jours avant et que le planning est fait aussi 5 jours avant, donc ils ont pu, sans dire qu'ils remplaçaient vraiment des CDI, jouer là-dessus. Après, il y a eu la deuxième semaine où vraiment il n'y avait plus grand-chose à l'antenne parce que la direction n'avait plus anticipé. Et là, aujourd'hui, depuis lundi, c'est un petit peu revenu, notamment beaucoup sur France Inter, pour deux raisons. Parce que du coup, vu que le mouvement dure, une fois de plus, la direction a pu embaucher des CDD qui, du coup, vu leur situation de précarité, sont pas en position forte pour faire grève. Et ensuite, le mouvement est long. Donc du coup, il y a des gens qui sortent de la grève tout en restant solidaires des revendications et du mouvement parce qu'ils ont besoin de thunes, en fait, un peu bêtement. Et puis, il faut pas nier qu'il y a un certain épuisement aussi. Mais en tout cas, les directions vont tout faire pour sauver prioritairement, évidemment, France Inter et France Info, qui sont les radios les plus écoutées. Et à l'intérieur de ces radios, vont essayer de sauver absolument les matinales, enfin les prime time, quoi.
Et est-ce qu'après 4 semaines de grève, tu dis qu'il y a de la fatigue, de l'épuisement, c'est logique, mais est-ce qu'il y a aussi des dissensions qui commencent à monter, à part du coup avec le syndicat des journalistes, on a compris depuis le début qu'il trache un petit peu, mais est-ce que ça commence un peu à patauger ou est-ce que le moral, il a l'air de rester bon? Là, t'as l'air d'être pas Radio France.
Non.
Non, ça. En fait, ce qui est dans les trucs où
on nous écoute pas, de toute façon,
dans le truc
Philippe Gallet.
Mathieu.
T'as
confondu avec Philippe Ball.
Ouais, on mélange les deux.
Est-ce qu'il reste de l'énergie, c'est ça la question?
Ouais, est-ce que ça se tient toujours bien au niveau?
Ouais, en tout cas, on dit que c'est une grève historique de sa longueur, parce que c'est la première aussi longue depuis mai 68. C'est une grève historique dans le sens où il y a vraiment une convergence de tous les métiers, des gens qu'on entend à l'antenne et des gens qui sont en dehors. Et c'est aussi une grève historique dans la convergence de l'intersyndicale qui tient depuis le début. Effectivement, aujourd'hui, l'intersyndicale tient encore. Effectivement, le SNJ n'était pas là depuis le début, mais en tout cas, l'intersyndicale qui est composée de FO, Sud, la CGT, la CFDT, la CFTC, l'UNSA, ils sont encore tous ensemble et aujourd'hui ils ont été tous ensemble au CCE lire une lettre qu'ils ont écrite ensemble avec l'AG. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les syndicats ont une place un peu privilégiée dans les AG, mais sont vachement à l'écoute de l'Assemblée Générale. Ils sont pas du tout dans un truc de... Et plus ça va, moins ils sont dans un truc dirigiste, en fait, de diriger les grévistes. Et ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que au CCE aujourd'hui, c'était pas juste les représentants syndicaux qui ont été, je vais pas dire un faux chiffre, mais c'était plein de salariés qui étaient grévistes ou pas, alors que les syndicats aiment pas trop ça généralement qu'on vienne avec eux aux négociations et tout ça. Donc là, il y a des collectifs, comme je disais, comme le Meilleur des Ondes, qui est un collectif où il y a plusieurs gens syndiqués ou non syndiqués à l'intérieur de plusieurs syndicats, et eux font tout un travail pour faire vivre le mouvement, et les syndicats sont avec eux, donc ça c'est assez chouette aussi.
Et une dernière question, penses-tu qu'il va y avoir convergence de lutte entre les policiers, les CRS?
La loi, les anti-Macron et Radio France?
On annonce que le cortège Radio France sera à la tête de la manif parisienne demain.
Très bien.
Bah merci de ta venue.
Bah merci à vous. C'est un honneur de participer à ce qu'il y a d'info prestigieux.
Et puis peut-être... la semaine prochaine.
C'est dans 15 jours. France, hein, et une nouvelle mise au point.
Dans 15 jours.
Oh non, je me suis loupée. Alors, on aurait qu'à enchaîner. Ah oui, c'est moi qui enchaîne. Les grèves des contrôleurs aériens. Encore des grèves. Donc, il y a eu suppression aujourd'hui de 40% des vols programmés à Saint-Ex par la direction pour anticiper la grève. Donc, c'est le SNCTA qui est premier syndicat à 41%. Qui, parmi les 4000 contrôleurs aériens, qui a appelé les aiguilleurs du ciel à des arrêts de travail, donc du 8 au 9 avril et du 16 au 18 avril et du 29 avril au 2 mai. Ils réclament des négociations, notamment sur l'organisation du travail et le recul à 59 ans de l'âge limite de départ à la retraite des contrôleurs aériens. Et donc le syndicat, pour la petite anecdote, avait initialement déposé un préavis en mars, mais l'avait levé en raison de l'émotion suscitée par le crash de l'A320 dans les Alpes de Haute-Provence.
Alors, on va au Rwanda, enfin pas au Rwanda en France, mais la présidence de la République française a annoncé hier la déclassification de ses archives, donc des archives de l'Élysée, portant sur la période du génocide au Rwanda. Donc on sait, on l'a dit des milliards de fois ici, que la France est complètement complice du génocide rwandais en 1994. Et donc voilà, avec en particulier un rôle très important du président de l'époque, François Mitterrand. Et donc, hier, l'Élysée a annoncé cette déclassification des archives donc de l'Élysée. Cette déclassification était attendue et demandée depuis longtemps. Ça a été annoncé hier à l'occasion du 21e anniversaire du début du génocide des Tutsis au Rwanda. Ce corpus sera consultable par les chercheurs et les associations de victimes. Il sera composé des notes des conseillers diplomatiques et militaires de l'Élysée, des comptes rendus de conseils restreints de défense et de réunions ministérielles. Mais l'Élysée n'a pas donné plus de détails pour l'instant sur exactement qu'est-ce qu'il y aura dans les documents qui vont être déclassifiés. Et donc, qu'en pensent les personnes qui s'intéressent à ce sujet, à ces dossiers, depuis longtemps? Alors, Hélène Dumas, par exemple, qui bosse à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, trouve qu'on peut craindre une annonce sans grand effet, car la déclassification a été extrêmement contrôlée. C'est le résultat d'un an de travail, sur la sélection des documents qui vont être déclassifiés, effectué sous la responsabilité d'un agent de la défense et de la sécurité nationale et de la sécurité générale, d'une part, et d'autre part sous le contrôle de Dominique Bertinotti, qui est la mandataire des archives de la présidence de François Mitterrand. Et donc Hélène Dumas ajoute, on est très loin de ce qui avait été fait pour la déclassification des archives de la guerre d'Algérie.
Mais ça fait pas du tout 50 ans. Non, il n'y a pas 50 ans normalement de délai pour.
Disons qu'au bout de 50 ans, c'est déclassifié automatiquement. Là, il s'agit d'une déclassification avancée, okay. Donc décidée vraiment ad hoc, quoi, par François Hollande théoriquement. L'historien Stéphane Audouin-Rouzeau, qui est directeur de recherche à l'EHESS, lui, il en pense à peu près la même chose. Pour le moment, dit-il, nous ne savons pas ce que contiennent ces documents, ni leur nombre, ni leur intérêt. En revanche, on connaît le processus qui a conduit à leur déclassification, et il y a de quoi inquiéter les historiens. La présence de la SGDSN, donc la secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale, et de Dominique Bertinotti dans cette opération ne plaide pas en faveur d'une opération transparente. En clair, on peut douter que l'ancienne présidente de l'Institut Mitterrand ait très envie de laisser sortir des documents qui sont compromettants pour François Mitterrand. Jean-François Dupaquier, qui est quelqu'un qui a écrit plusieurs bouquins sur le Rwanda, ajoute « Qu'allons-nous apprendre que l'on ne sait pas déjà ?» Et il rappelle qu'il y a déjà eu près de 2000 documents qui ont été déclassifiés, soit qui d'une manière ou d'une autre ont fuité et qui ont été publiés dans des bouquins. Je ne pense pas, dit-il, que l'on puisse s'attendre à des révélations, à des surprises dans les archives présidentielles, d'autant que leur nombre semble dérisoire. D'après mes sources, on parle d'un volume de 80-90 documents. Pourtant, les attentes des historiens sont encore grandes. Ces papiers déclassifiés devraient, en théorie, nous aider à nous faire une idée au plus près du rôle de l'armée et des politiques français. Il reste plusieurs sujets que les documents de la présidence pourraient éclairer, rappelle Stéphane Audouin-Rouzeau, comme la nature de l'opération turquoise. Donc l'opération turquoise, on se souvient, c'est à la fin du génocide, l'armée française qui a décidé d'intervenir, enfin la France a décidé d'intervenir au Rwanda, soi-disant, pour arrêter le génocide, dans la pratique pour permettre d'exfiltrer les plein de monde du camp des gens qui étaient en train de pratiquer le génocide et qui étaient en train de perdre la guerre par ailleurs. Donc l'opération turquoise a servi à ça. Et donc ce Stéphane Audouin-Rouzeau, qui en tant qu'historien ne veut pas conclure même un truc qui est déjà complètement évident, dit qu'il aimerait bien connaître la nature de l'opération turquoise conduite par l'armée française au Rwanda pendant l'été 94. Était-elle une opération militaire qui, sous prétexte d'intervention humanitaire, visait à soutenir le régime transitoire dans sa lutte contre le front patriotique rwandais? Alors là, l'article que j'ai lu précise entre parenthèses Tutsi. C'est un peu comme si on parlait de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on disait l'armée anglaise, entre parenthèses, juif. C'est-à-dire qu'effectivement, le front patriotique rwandais, il y avait plein de Tutsis dedans, il était majoritairement Tutsis, mais contrairement au camp adverse, c'était pas une armée ethnique. Mmh. C'était une armée dans laquelle il y avait des Tutsis et des Hutus. Et donc, Audouin-Rouzeau continue. Si à ce jour, nous savons tous que la France s'est compromise au Rwanda, on ne sait pas encore mesurer le degré exact de sa compromission. Pour l'association Survie, qui a énormément milité pour cette déclassification, qui avait remis il y a un an une pétition de 7000 signatures demandant cette déclassification, etc., l'opération de l'Elysée est malgré tout un trompe-l'œil. Donc ils ont demandé un truc, ils sont toujours pas contents. Pourquoi ils sont pas contents? Nous pensons que les documents classifiés qui vont être déclassifiés sont déjà connus, explique Raphaël Doridan, qui appartient à Survie. Ils sont issus apparemment du fonds qui s'appelle le fonds Françoise Carl. À l'époque, Françoise Carl était collaboratrice de François Mitterrand à l'Élysée. Elle avait sélectionné des notes et des documents sur ce sujet. Et en réalité, ces documents ont déjà été publiés dans un bouquin qui s'appelle Rwanda, les archives secrètes de Mitterrand. Le bouquin date de 2012. Du côté du monde de la justice, on espère que ce n'est qu'un début, puisque il faut bien savoir que le pôle génocide de la justice française est saisi de deux affaires, en réalité de séries d'affaires liées au génocide rwandais. D'une part, les exactions qui sont vraisemblablement, peut-être, ça dépend dans quelle mesure on prend les précautions juridiques, mais les exactions dont sont accusés des soldats français à l'époque de l'opération turquoise, et d'autre part, le rôle du fameux capitaine Baril pendant le génocide. Le capitaine Baril, c'était un gars qui avait été ancien gendarme, tout ça, et qui, au moment du génocide, était mercenaire. Donc théoriquement, là, purement à titre privé, en réalité... Ce que chacun sait, sans le dire si on n'est pas sur Radio Canut, c'est que de toute façon, le boulot qu'il faisait était un boulot que l'État français voulait voir faire, mais dont il voulait pas être responsable lui-même. Donc d'une part, qu'est-ce qu'a foutu Baril? D'autre part, les militaires français qui, à certains moments, ont prêté la main assez directement au génocide, entre autres pour trier les gens qui étaient Tutsis, qui n'étaient pas Tutsis. Donc voilà, il y a deux affaires qui sont portées devant les tribunaux français. Sauf que les juges français, eux aussi, ont demandé de voir des archives, mais bon, du coup, pas du tout les archives de l'Élysée, mais des archives du ministère de la Défense, des Affaires étrangères, de la Coopération et des archives de Matignon. Or, ces archives sont toujours inaccessibles aux juges et au pôle génocide, et aussi, bien sûr, aux historiens.
Et demain, il y a une marche de nuit non mixte à Lyon. Donc, c'est une marche pour les femmes, pour les gouines, pour les trans ou les trois en même temps. Et c'est donc ce vendredi à 20h, départ place de la Croix-Rousse. Et je vais lire un extrait de quelques bribes de l'appel. Nous prenons la rue pour dire que la nuit, la rue nous appartient, pour marcher la nuit et se sentir forte et fière, pour vivre librement, quel que soit nos genres et nos sexualités, pour résister au repli identitaire et à l'union nationale raciste et patriarcale qu'on veut nous imposer, pour créer et consolider ensemble des solidarités féministes, pour dire que nous aussi, nous avons nos armes et que nous ne lâcherons pas contre les récupérations de nos luttes à des fins racistes, sécuritaires et électorales. Donc, les gars qui soutiennent leurs potes féministes, voilà, ne venez pas et ça va être entre copines, quoi.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info contre la machine.
Et pour ce il faut que ça sache, nous allons rapidement parler, pas de tout, mais en tout cas de ce qui se passe à Calais. Quelques nouvelles de Calaisie, puisque ces derniers jours, en fait, les campements se désertent. Je vous avais parlé d'un camp qui allait être mis en place par les autorités. Donc, c'est un bidonville qui n'est pas directement au centre-ville de Calais, qui a ce que des associations là appellent un bidonville d'État. Aucun migrant jusqu'à présent, depuis le temps qu'il y a des migrants quand même, ça fait déjà un moment, n'a jamais osé aller sur ce terrain tellement il est invivable. Et donc ils ont décidé de regrouper tous les migrants sur ce site-là. Donc là, de plus en plus ces derniers jours, les migrants sont allés s'y installer. De même, mais pourquoi ? En fait, ça fait un peu expulsion écologique dans la vision de l'écologie du gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait les flics les ont menacés d'expulsion. Donc effectivement, ils les ont pas expulsés, mais ils leur ont dit, bah en fait, si vous partez pas, nous on va brûler vos affaires. Du coup, vous auriez intérêt de partir. Du coup, la plupart des squats et des terrains, des campements sont désertés. Parce que la police leur a vraiment vraiment mis la pression et que les lieux sont en sursis. Il y a eu beaucoup d'huissiers qui sont passés pour faire que les lieux puissent plus rester. Et maintenant, il y a quelques jours, des huissiers qui sont passés à Tioxine ou un des grands campements dans une forêt, en constatant, vous voyez. Très bien que la plupart des migrants étaient partis, du coup, comme quoi le travail était bien fait, alors que c'est vraiment lâche ce qui se passe. Et puis, du coup, beaucoup d'associatifs qui jouent avec ça, puisqu'ils aident les migrants à se déplacer et y aller, plutôt que avoir une politique d'opposition face à cette manipulation de la mer de Calais. Et donc plutôt ils aident du coup les migrants, mais comme les migrants choisissent de partir parce qu'ils ont trop de la pression, donc ils sont installés autour de Jules Verne, ça s'appelle, je crois, le campement. Et quoi dire d'autre? Bah, je pourrais rentrer dans les détails, mais peut-être ce qui se passe en fait, c'est que quand même jusqu'à présent, il y a pas mal d'associatifs plus vénères et de No Border qui sont restés dans les squats, parce qu'il y a une partie des migrants qui restent dans les squats et qui attendent les expulsions en fait, et du coup les gens ils sont plutôt là en mode à rester dans les squats et à attendre
d'opposition
de se faire expulser. Et du coup là-dedans le Sauvons Calais, l'extrême droite, joue quand même un truc, puisqu'ils ont fait une manif aujourd'hui. Et du coup, en fait, la politique de Sauvons Calais a ultra bien marché à Calais, puisqu'ils ont, il y a quelques années, ils sont mis en place pour effrayer la population sur le fait que les migrants, ils faisaient chier. Et en fait, ça a trop, les autorités les ont trop encouragés, parce que ça les a arrangés. Maintenant, les gens flippent à mort. Les migrants étaient relégués à l'extérieur du centre-ville. Les Sauvons Calais font leur petite manif. En gros, tout le monde, je veux dire, tout le monde, les autorités et l'extrême droite sont main dans la main. Ils sont assez heureux. Voilà, comme mauvaise nouvelle pour finir ce Canu Info.
En même temps, c'est pas une mauvaise nouvelle qui est complètement surprenante de nos jours, depuis des... Eh ben on s'arrête là,
ouais.
Du coup.
Allez, on
de
s'arrête.
De bonne heure, de bonne humeur. On vous dit à la semaine prochaine.
C'est ça, ce sage.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao.